L'idée d'introduire cette thématique, le loup dans la bergerie, donc, est liée à plusieurs moments de discussion avec Stéphane autour de la préparation du texte, mais c'était quand même antérieur à la préparation du texte Charlie et après, et donc lié à jusqu'où faut-il reconnaître la place, le rôle du politique dans cette question de la laïcité. Et naturellement, comme souvent, des mots sont piégeants. Politique est un terme piégeant. Il l'est en particulier en français parce que, à la différence de l'anglais, nous utilisons le même terme au singulier, au pluriel, au masculin et au féminin, là où l'anglais a trois termes. Trois termes qui désignent des choses qui sont en fait, et comme je voulais être bien sûr que mon souvenir était exact, j'étais regardé dans mon dictionnaire ce matin, politique comme ligne d'action, projet, disons, politique comme politique comme système de gouvernement, et politics comme choix des moyens effectifs pour concrétiser l'ensemble de ces pratiques. Alors, quand on aborde le problème de la laïcité, me semble-t-il, on est obligé de mesurer la relation de la laïcité avec chacun de ces trois termes et de s'apercevoir que selon que l'on choisit l'un ou l'autre des sens, naturellement, cela va avoir des conséquences extrêmement importantes. Et pour moi, ce qui me semble être la ligne de force d'une réflexion, c'est le premier sens. Et qui rejoint, et c'est pour ça d'ailleurs que d'une certaine façon, je me sentais si en association d'idées avec ce que tu venais de dire que je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est un peu dommage que... mais ces questions étaient tout à fait passionnantes et justifiées. Je suis désolé, ça fait pas mal de temps qu'on se fréquente intellectuellement, mais je vais continuer sur les brisées de Rony. Je vais, sans que j'en ai quelque raison que ce soit de travailler dans la même perspective, mais je crois que c'est bien la même perspective. Avec cette différence fondamentale qui, je crois, est intéressante à souligner au départ, c'est que René a eu besoin de dire « je suis juif » et du coup, moi, je dis « je suis fils de jésuite ». J'ai été formé chez les jésuites jusqu'à l'âge de 18 ans et chez moi, dans mon milieu intellectuel, parler de la laïcité, c'était un gros mot. C'était une manière provocatrice de contester un ordre de société. J'étais élevé dans une école qui se prétendait libre. École libre, alors qu'il n'y a pas plus obsessionnellement réducteur de liberté que ces cadres de formation qu'on appelle les écoles de jésuites où moi pour survivre il a fallu que je sois expulsé, que je sois mis à la porte de cette école pour j'aurais dû y partir depuis beaucoup plus longtemps, mais comme mon père était président des associations d'écoles libres, il était intouchable et son fils mal touchable donc, et ce qui fait que je suis resté si longtemps dans cette école dite libre, mais qui pour moi était une école de desservelage. L'objectif étant de former dans la perspective des jésuites, qui est une école dont le fondateur était un militaire, et donc toute la démarche est une démarche de militaires réduisant l'ensemble des vertus et des qualités des individus au seul ordonnancement de la discipline qui est imposée pour aboutir aux objectifs poursuivis. Bon, je vais pas plus loin. vous avez compris que je m'en suis quand même pas mal sorti. Mais en même temps, ma première idée, alors j'ai deux idées, disons, hein, que je veux développer très brièvement. La première est qui était l'objectif que nous avions désigné avec Stéphane, c'était de dire, plutôt que de parler de manière générique de politique, il faudrait plutôt travailler sur la dimension de l'éthique. Et la dimension de l'éthique, ben, c'est la dimension de la liberté que vient de traiter, et plusieurs fois de reprendre dans son discours, hein, Rony, donc cette dimension de, hein, de l'apprentissage de la liberté, puis du respect de la liberté, ça va conduire mon propos dans sa deuxième partie. Mais avant, je voudrais revenir sur quelque chose qui est dans ma tête depuis pas mal de temps et qui est lié sans doute en partie à cette expérience, mon expérience jésuite, c'est qu'au départ, la laïcité, c'est une dimension religieuse. C'est un problème de religion dans la société du Moyen-Âge, puis dans la société qui se construit dans la modernité. Et ça, il ne faut jamais l'oublier parce que, et Rony l'a dit d'une certaine manière, peut-être que j'insiste un peu plus, ce n'est que dans les 30-40 dernières années. Pour moi, dans mon adolescence, je vivais le rapport à la laïcité, et ce que j'en vois maintenant, il y a une très 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 forte évolution, extraordinaire évolution. La laïcité est sortie d'une religion de la laïcité pour entrer dans le champ de la réflexion, politique autour de la liberté par la laïcité. Ça me paraît une avancée. Une avancée sans doute démocratique, mais surtout une avancée de projet de société. Hein. Donc, mais dans la société du Moyen-Âge, et c'est Georges Duby, l'historien, qui le rappelait, et qui l'a beaucoup travaillé même, je dirais, hein, la société est construite autour de trois champs, trois ordonnancements, trois ordres qui vont par la suite évoluer, qui sont les milites, les guerriers, les orantes, les priants, et les laborantes, les travailleurs. Et c'est dans la catégorie des orantes que se construit une distinction entre le clair et le laïc. Mais à l'intérieur de ce monde particulier que l'on appelle l'ecclésia, qui en grec veut dire l'assemblée priante, hein, l'assemblée qui se... Et donc, nous sommes là dans toute cette période qui va du 12e au moins 16e, 17e siècle, hein, dans une construction dans laquelle le monde de ceux qui prient se divise entre ceux qui se dévouent totalement au service de Dieu et prononcent des vœux qui vont les obliger durant toute leur vie, et ils vont porter la tonsure, hein, pour, comme marque, hein, symbolique de reconnaissance, hein, de leur état de clerc. Et les autres qui ne sont pas tenus à ces obligations, mais qui font partie du système. Ils font partie du système dans une perspective de marginaux, de minoritaires d'une certaine façon, de toute façon, d'acteurs de deuxième rang par rapport à ce rôle du clergé qui va lui-même se construire progressivement dans des perspectives hyper hiérarchique. Et lorsque, à partir du début du XVIIe siècle, la société est vraiment construite en désordre, hein, en des états, hein, dernière réunion des états généraux au début du XVIIe siècle, je crois que c'est en 1614, hein, on a une représentation extrêmement précise de trois états. Donc, les milites sont devenus la noblesse, hein, les orantes sont devenus le clergé, et les laborantes sont le tiers état, donc qui va être promis, mais on ne le sait pas, hein, à être la nation dans le discours de Seyès, là, hein, en 1789. Donc, Durant toute cette période, la notion de laïc et de laïcité renvoie à une perspective doublement spécialisée dans l'ordre des ceux qui prient par rapport à tous les autres, ceux qui guerroient et ceux qui produisent la richesse nationale, pourrait-on dire, et à l'intérieur de ce monde qui prie, ceux qui sont les équivalents des frères converts, etc., c'est-à-dire utilisables, mobilisables par le clergé, le clergé lui-même qui se distingue entre un haut clergé et un bas clergé, et on sait que le bas clergé va à un moment donné, à la fin du XVIIIe siècle, basculer du côté du tiers-état, que c'est ça qui va faire véritablement la Révolution française. Alors, tout ça, c'est pas anecdotique parce que lorsque, à la fin du XIXe siècle, tu as commencé à l'évoquer, mais moi, j'étais regardé un petit peu, j'ai en particulier regardé les choses en relisant la vie de Georges Clemenceau. Clemenceau qui a été, entre 1890 et 1905-1906, au cœur de ce combat. Et ce combat, en fait, il ne le conduit pas contre l'Église, il ne le conduit pas contre des pratiques religieuses, il le conduit contre les congrégations. Les jésuites, c'est une congrégation à l'époque. Les jésuites sont mis à la porte, d'ailleurs, à cette époque-là. Et donc, c'est contre les congrégations. Et pourquoi ? Contre les congrégations, parce que c'est là où s'élaborent la femme et l'homme de demain par le système éducatif dont ils ont quasiment le monopole. Et si on veut qu'un projet républicain puisse se développer dans la perspective des lois de Jules Ferry des années 1884-85, il faut mettre à la porte de France ces congrégations qui ont un monopole idéologique si encore total qu'il ne peut pas y avoir de véritable liberté, mais qui commence par la liberté de conscience, tant que les congrégations gardent ce monopole de la construction des savoirs, de la légitimation des positions idéologiques, etc. Donc, je pense que ce qui a été fondamental, et moi, je dirais maintenant, en tant que fils de jésuite toujours, la grande avancée des lois de séparation d'Église et de l'État et des lois sur les congrégations, c'est justement la construction d'un espace commun. Et moi, ce qui m'a passionné le 11 novembre avec Jacqueline, on était place de la République... on a poireté pendant 2 heures.
Le 11 janvier,
oui. En avril, bon, pas mal. J'ai eu quelque chose en avril. Bon, n'importe. Alors, le 11 janvier, c'est que on retrouvait cet espace du commun autour de rien d'autre que, tu l'évoquais de la symbolique de on est Charlie, de la liberté. Ce qui, à mon avis, nous réunissait tous, la diversité des expériences et des choses qu'on se disait comme ça. C'était plus loin que la liberté de la presse. Et pas.
Il y avait aussi les gens de la manif pour tous.
Oui. Hein. Mais je crois que tout le monde était là, mobilisé. C'est la question de la liberté. Et donc, ce qui m'apparaît particulièrement. Intéressant, donc, lorsqu'on réfléchit sur laïcité et politique à l'époque contemporaine, maintenant, là, c'est comment le projet de société basé au-delà des choix idéologiques partisans, au-delà peut-être même, et là je vais peut-être hérisser quelques poils, mais au-delà même de la... protection de l'idée de démocratie, car plus j'avance, plus je m'aperçois qu'en fait il y a des conceptions du crateigne, du commander, d'organiser ensemble, qui très certainement ne peuvent plus être saisis par la représentation grecque du démos. On pourra peut-être rentrer un peu dans cette discussion de là tout à l'heure, parce que c'est assez compliqué. Mais moi, quand je travaille en Afrique sur les pratiques populaires et partisanes, et en particulier, j'ai beaucoup travaillé sur l'avenir des systèmes présidentiels en Afrique, en montrant qu'ils n'étaient pas liés à la même représentation de l'ensemble de la masse qui ne s'organise pas dans les contextes africains de la même façon que, de toute façon, dans les modèles athéniens, etc., originels, et dans ce qu'on croit être la démocratie chez nous. Donc, il me paraissait intéressant d'utiliser un vocabulaire différent pour rendre compte de formes d'organisation d'un vivre ensemble qui ne sont pas fondées selon les mêmes schémas. Bon, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est peut-être justement au niveau de cette idée de liberté, de dire comment est-ce que cette idée de liberté va pouvoir effectivement être défendue. Nous avons l'impression là que c'est vraiment... Enfin, moi j'ai eu, et j'avais l'impression durant ces journées, et je les ai toujours un peu, qu'on a le sentiment que la liberté est quelque chose de tellement précieuse qu'elle est... C'est pas la patrie qui est en danger, c'est la liberté qui est en danger. Et on le revoit avec des tas de choses qui nous reviennent la libération des camps de concentration dont on a eu des témoignages extraordinairement passionnants à certains moments. Tout ça nous renvoie au fait que nous avons de plus en plus le sentiment que notre liberté commune, elle est menacée, que c'est d'abord autour de ça. Alors, comment essayer de faire avancer cette idée qu'il faut se mobiliser autour de la défense de la liberté? Bon, avec Stéphane, on a eu un premier échange trop rapide, trop grossier, trop gros, hein, sur l'idée de partisan, pas partisan, etc. Bon, et moi j'ai dit... ce qu'il faut, c'est essayer de donner à l'éthique toute sa place. Et pour ce faire, on arrive sur un autre dossier qui, depuis plusieurs semaines, hein, est au cœur, c'est de nos discussions, nos débats publics, c'est l'échec de l'éducation. De l'éducation publique, de l'éducation privée, de l'éducation de manière générale. Hein. Il ne peut pas y avoir une assise véritable donnée à la liberté si dans à la fois les constructions intellectuelles, les références morales de chaque membre de la société politique, je ne dis pas forcément chaque citoyen, je dis chaque membre, ça, donc ça va encore plus loin, il n'y a pas véritablement une endoculturation, donc un apprentissage culturel qui est extrêmement déterminant dans ce sens que on a le sentiment que si un certain nombre de valeurs et de représentations ne sont pas assimilées extrêmement tôt, mais pas forcément d'une manière conceptuelle, mais d'une manière pratique, par des gestes de respect à l'égard des autres en particulier, hein, le sens de l'altérité, de l'altruisme qui est au cœur donc des pratiques d'apprentissage culturel, telles que moi je les ai vues observer, pratiquer au sein des sociétés africaines. Hein, donc il y a dans notre société un angle mort autour de cet échec des systèmes éducatifs initiaux. Et on fait porter à l'éducation nationale, souvent avec beaucoup de justifications réelles, mais on lui fait porter des responsabilités qui ne sont pas forcément les siennes. Ce n'est plus seulement l'éducation nationale, c'est chacun d'entre nous qui est responsable à ce niveau-là. Dans les sociétés africaines, dès qu'un membre de la société a le moins acte déviant, chaque membre en position de le lui signifier va l'informer « Attention, tu ne dois pas le faire. » Et je me rappelle, dans les sociétés d'Yola de Casamance, où je travaillais il y a 35 ans à peu près, On me disait, en particulier concernant donc les enfants, les adolescents, quand un adolescent a une conduite qui ne correspond pas à la fois à l'éthos et aux habitudes du groupe, l'adulte le plus proche et le plus immédiatement concerné le prend et lui dit attention. Ça, alors, je me rappelle encore, on dit là, on dit ni. C'est interdit. Bon. Premier avertissement. L'adolescent recommence. À ce moment-là, c'est le patriarche qui convoque l'adolescent sous la voie palabre. Un peu l'équivalent chez nous de l'adolescent convoqué chez le juge des mineurs. Hein, et donc, qu'il avertit solennellement. Ni, tu n'as pas part, continuez. Et c'est fait généralement sous la voie palabre, mais toute la communauté est à ce moment-là mobilisée. Si si l'adolescent continuait, à ce moment-là, on considérait qu'il mettait en cause la reproduction du groupe, et à ce moment-là, il était éliminé. Traditionnellement, il était mis à mort et son corps était mis dans une termitière pour qu'il soit totalement détruit, désagrégé. Bon, dans les situations naturellement plus modernes, coloniales, etc., c'était des bannissements du village qui s'agissait. Mais ce que je trouve important, c'est cette idée que l'ensemble de la communauté est responsable de chacun de ses membres. Et c'est ça, si vous voulez, que je pense, il va falloir que nous travaillions, peut-être que nous continuions à reprendre dans un futur séminaire de regard. Et ceci s'accompagne donc de, en fait, grâce à cette éducation. Éducation veut dire, ça vient de educare, hein, en latin, ça veut dire mener vers quelque chose. Hein. Donc l'éducation, ce n'est pas un ensemble de connaissances, c'est la condition pour entrer dans la société des adultes. C'est la capacité à mobiliser l'ensemble des compétences avant d'être des connaissances pour entrer dans la société. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut considérer que chaque individu, construit et orienté par un sens de l'altérité, peut développer ce que l'on appelle donc le tribunal des consciences, hein, qui est la dimension de l'éthique, hein, qui va lui permettre véritablement de pouvoir juger librement et en toute liberté possible. Et je retrouve, Ronnie, tout ce que tu as dit tout à l'heure, et tu le dis bien mieux que moi, et donc je pense que c'est là, hein, où on peut continuer la réflexion. Et peut-être simplement pourrait-on la continuer en entendant en même temps, en entendant la suite, enfin ça dépend de vous, hein, mais en entendant Stéphane.
Est-ce que tu peux préciser le loup dans la bergerie?
Le loup, c'est le choix politique partisan, mm-hmm. c'est-à-dire l'idéologie partisane qui fait que dans des contextes particuliers. Ça avait été une formule comme ça, simplement. Bon, ça a été gardé. Hein, mais ce qui est, en fait, extraordinairement difficile, c'est que, depuis 10-15 ans, je travaille de plus en plus sur l'idée de commun et de partage. Hein, en tant que spécialiste de politique foncière en Afrique, on est en train de faire remonter tout ça. Hein, et puis, on s'aperçoit qu'en France, les choses sont en train de réémerger aussi avec une force de plus en plus forte. Il y a 2-3 ans, l'idée de commun était inaudible et maintenant elle est au cœur de tout un ensemble de pratiques. Donc c'est un peu autour de cette idée de commun que je pense qu'il faut que, sans aucun nivellement, et moi je me refuse au consensus, je suis partisan du multisensus, hein, c'est-à-dire une pluralité de partage autour d'une dimension dans laquelle on reconnaît nos différences et on voit ce avec quoi on peut travailler ensemble. Hein. Donc cette notion de multisensus, elle me paraît absolument essentielle, mais il faut la construire d'une manière raisonnable. Or, je m'aperçois que dans le combat partisan entre des partis politiques en France, en particulier en ce moment, on passe notre temps à détruire et à contester des idées qui sont avancées. Je ne dirais pas que du côté de mes adversaires de l'UMP ou des choses comme ça, il n'y a toujours que des bonnes choses, mais en même temps il y a des choses importantes et on doit être capable de pouvoir construire au-delà d'un certain nombre de choix partisans sur cette question de la laïcité une base qui soit notre trésor commun. C'est ça, si vous, hein. Et donc, pour l'instant, j'ai pas toujours entendu, même si on a eu quelques discours, mais derrière les discours de notre Premier ministre ou de notre Président de la République, je pense qu'il y a aussi bien d'autres choses. Et il faut porter. Alors, s'il y a un esprit du 9, 11, etc., janvier, pas avril, eh bien, ça devrait être autour de ça qu'il faudrait essayer de le construire.
Ok. La parole est à... La laïcité comme patrimoine commun.
Une question sur le laïc et politique. Dans ma vision, en plus des choses, l'islam est, a une vision du religieux et du politique consubstantielle. Le laïc, quelque part, est un coin enfoncé entre le religieux et le politique, qui chez nous a mis quelques siècles à s'installer, à se développer, avec des étapes comme la Révolution française. Et du coup, je me demande si au fond, le concept de laïcité qui sépare le religieux et le politique est concevable, imaginable et acceptable pour la religion musulmane.
C'est une grande question.
C'est sûrement pas partagé par l'ensemble des juifs, enfin, il y a aussi une partie qui considère, je pense, que le religieux et le politique sont totalement...
Je me souviens que, étant en Algérie en 74, oui, je crois que c'est ça, 74-75, c'était la grande question qui était placardée partout, l'islam et le socialisme. Sont-ils compatibles ?
Alors, moi, ce que je pense, c'est que, légitimement, on peut demander aux musulmans résidant en France qu'ils respectent la conception de la laïcité actuellement dominante. Et que réciproquement, dès lors que eux acceptent de respecter notre conception, nous devons respecter leur propre conception jusque là où elle ne remet pas en question la liberté de chacun. C'est vraiment là. Hein, et la liberté, c'est faire tout ce qu'il est possible de faire jusqu'à ce qu'ils ne remettent pas en question la liberté des autres. Donc, nous sommes dans une situation dans laquelle nous n'avons pas à donner des leçons à l'islam. L'islam n'a pas à nous donner des leçons. Nous avons à apprendre à nous respecter l'un et l'autre et à comprendre pourquoi différentes positions se sont étalonnées progressivement et à quoi elles donnent lieu. Et c'est pour ça que je trouve intéressant qu'en ce moment l'accent soit mis sur la formation de tout ce qui, au nom d'une communauté musulmane, ou en tout cas à l'échelle des lieux de prière, vont être amenés à labelliser un peu la manière sur laquelle les relations entre deux systèmes de représentation peuvent s'organiser.
Je voudrais ajouter quelque chose parce que je ne suis pas d'accord avec si c'est possible méthodologiquement de le dire, je ne suis pas d'accord avec la question et je ne suis pas d'accord avec la réponse. Ça peut paraître bizarre de ne pas être d'accord avec une question, mais c'est la formulation commune de la question et de la réponse qui me semble problématique, à savoir l'introduction d'une sorte d'essence de l'islam anhistorique qui traverserait les siècles comme ça. Quand on dit l'islam est-il compatible avec la démocratie, interrogeons-nous sur ce que on aurait pu dire en projetant cette question dans un passé récent. Le catholicisme est-il compatible avec la démocratie, avec la laïcité? Pendant des siècles et des siècles, la réponse a été non. Mais si, avec le recul, on considère que cette question n'est plus valide pour cette catégorie-là, c'est parce qu'on l'historicise. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire également avec l'islam. Donc, déshistoriciser l'islam, l'essentialiser, le voir comme une sorte d'objet stable qui traverse les siècles, ce qui est le contenu même de cette question, qui est importante parce qu'elle est reprise, enfin, elle existe à l'état public. Et moi, je ne cherche pas du tout à la disqualifier en disant cela. Je cherche simplement à l'analyser, à voir ce qu'elle implique de présupposer, mais pas du tout à la disqualifier. Moi, j'estime qu'à partir du moment où une question se pose dans l'espace, elle doit exister, elle doit être respectée en tant que telle, mais on n'est pas obligé de reprendre les termes même. Et pour mettre ça en lien avec ce dont je parlais tout à l'heure, est-ce que on dirait le judaïsme est-il compatible avec la République? Il y a autant de raisons de répondre non, oui, que pour l'islam ou le catholicisme. Et quand on voit ce qu'il en est de l'unique État au monde qui se réclame du judaïsme, là, on peut dire finalement non, ça marche pas. C'est pas le cas. Mais je me garderai bien de cette réponse parce que elle n'a de sens que dans un contexte donné. Donc, en situation, à un moment de l'histoire, la réponse varie. Donc, c'est ça qui me paraît problématique dans la question. Et dans la réponse d'Étienne, ce que je trouve problématique, c'est cette écho donné à l'essentialisation, à savoir un nous, eux. Nous avons à leur dire, ils ont à comprendre que. Je ne crois pas que ça corresponde à une situation sociale. 80% des musulmans ne déclarent leur religion comme leur religion, leur filiation culturalo-religieuse, disons, comme l'une des composantes d'une identité qui a bien d'autres facettes. Et donc, s'adresser à quelqu'un parce qu'il s'appelle, parce qu'il porte un prénom à consonance musulmane, comme à un musulman, me semble déjà forcer une sorte de barrière, inviter à une assignation à résidence identitaire qui biaise la question. Donc, qu'on prenne en charge cette question, oui, que la réponse prolonge les termes dans lesquels la question a été posée, là, je pense que ça, c'est problématique.
Je crois que ça prolonge un certain nombre de réflexions sur le dogmatisme qu'on avait, laïcité comme dogmatisme. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'islam qui doit se construire dans la modernité, ou est-ce que c'est la République qui doit se religiosiser, hein, se retransformer? Et c'est cette question, quand on mobilise le concept de laïcité comme un dogme intangible, et toi tu parles à juste titre du doute, je pense qu'il faut se poser la question du doute, et il faut présenter la laïcité comme quelque chose aussi de discutable. C'est-à-dire que c'est pas un tabou, c'est quelque chose, et on est là aujourd'hui justement pour en parler, que ce tabou relève de l'engagement personnel des politiques. À ce moment-là, 99% des musulmans habitant en France s'engagent politiquement sur cette laïcité. Ça, c'est le fait. Et donc, de ce fait, sont en train de créer sous nos yeux un islam compatible avec la République. Mais c'est en train de se faire, c'est en train de se créer. Donc il n'y a pas de vision dogmatique ou philosophique essentielle, comme tu le soulignes à juste titre, mais il y a une création par une myriade d'individus d'un nouvel islam républicain. Et je pense que le 11 janvier, contrairement à ce qui a été dit dans la presse, il y avait beaucoup de musulmans. Moi, j'en ai croisé beaucoup, et dans les gens que je croise dans mon milieu professionnel, où il y a beaucoup, beaucoup de musulmans, beaucoup d'entre eux étaient aussi parmi nous. Donc, il n'y a pas eu ce clivage.
Parmi nous.
Parmi nous, oui, parmi nous. Mais nous, oui, le nous, oui. Nous, oui, nous. Non, mais parmi nous. Je veux dire, ça fait partie de mon équipe. C'est des gens qui sont dans mon équipe. C'est nous. Nous. Faut pas lire freudien, hein, t'avais dit.
Ah non.
Alors si tu
t'appelles de
Lacan.
Idée,
non, parce que ça a été beaucoup dit, justement, si j'ai fait ce lapsus, ça a été beaucoup dit qu'on était entre nous. C'est à ça que je. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'a pas été objectivement le cas. Alors, 1, 2, 3. Sylvie.
Il y a une chose qui me frappe en gros propos. C'est la question de l'omniprésence de la religion, quelle qu'elle soit, dans une réflexion sur la laïcité. Et je trouve ça impressionnant, parce que pour moi, la laïcité, c'est justement le droit d'être religieux ou pas, la liberté, vous avez parlé de liberté. Et c'est aussi, il me semble, quand c'est historiquement né en France, c'était l'envie de construire un rapport au monde que moi j'appelle politique, espace commun qui permette d'avoir une prise sur le monde et une envie de le transformer. Enfin, vieille militante, je continue à avoir envie de penser ça, et ça j'ai le sentiment qu'on en parle plus du tout. C'est-à-dire que on est complètement enfermé dans un dialogue, enfin je sais pas, moi j'en ai ras-le-bol, quoi, on parle que de la religion, quoi. Et je le trouve un peu ce matin, et ça me rend perplexe, parce que moi je trouve que la laïcité c'est autre chose. En tout cas, la liberté de penser en termes religieux ou de penser en autre terme dont on a aussi envie de parler et dont on ne parle plus.
Est-ce que je peux réagir à cette.
D'accord. Olivier.
Oui, moi je voudrais ramener le débat de la laïcité sur le quotidien. Il y a une ambiguïté dans la laïcité à la française qui est que si on considère que la laïcité ne s'intéresse qu'au domaine public, encore que la limite entre le domaine public et le domaine privé n'est pas forcément très facile à tracer et à discerner, cette ambiguïté c'est est-ce que la laïcité c'est l'acceptation de toutes les religions en les mettant toutes au même niveau, ou est-ce que c'est l'occultation et la négation de toutes les religions, avec une autre ambiguïté qui est que tout à l'heure Rony a dit que la laïcité s'est bâtie sur une opposition à la religion dominante du catholicisme, ce qui est certainement vrai historiquement. Mais maintenant, la laïcité, ça correspond quand même beaucoup de la religion dominante dans la communauté française, qui reste la culture catholique et non pas le catholicisme au vrai sens du terme. Et pour illustrer ça, sauf que je travaille dans un hôpital. Et on a régulièrement dans un hôpital situé dans le 93, donc avec une forte proportion et de personnel et de malades musulmans, on a régulièrement des conflits avec le personnel, très rarement avec les patients, mais avec le personnel. Et notamment, récemment, je me suis fait alpaguer par notre direction parce qu'une de nos infirmières, une récente convertie, que j'avais acceptée dans le service avec un voile, a pris certaines libertés avec l'accord qu'on avait conclu et a fini à parler beaucoup trop loin, ce qui fait qu'on a été obligé de mettre le hall là. Et la directrice m'a dit, à partir de maintenant, plus aucune tolérance, zéro. Votre service était connu comme étant relativement tolérant, maintenant aucune tolérance, zéro. Et je lui ai dit, d'accord, mais alors on va faire la guerre aussi aux croix. Et elle m'a dit, non, c'est pas pareil. Et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose que cette double ambiguïté, à la fois est-ce que c'est l'acceptation de tout ou la négation de tout, et à la fois la laïcité, c'est une laïcité avec un catholicisme accepté, parce qu'on voit bien un catholicisme accepté, et puis le reste non, est très nuisible, parce que pour moi la laïcité c'est pas ça. Moi, la laïcité, dans le domaine public, c'est l'acceptation de toutes les religions, dans le respect réciproque de chacune, c'est-à-dire que des signes extérieurs de religion sont acceptables tant qu'ils ne dépassent pas une certaine mesure. Et c'est là où notre infirmière a complètement dépassé la mesure et elle nous a, entre guillemets, un peu roulé dans la farine. Mais on doit pouvoir accepter certains signes. Ce qui fait qu'on se retrouve dans cette aberration absolue, ubuesque, où nos infirmières ou nos externes n'ont pas le droit de porter le voile, mais où les Antillaises, qui ont des cheveux parfois extrêmement touffus, se mettent un fichu autour des cheveux qui couvre pratiquement l'intégralité des cheveux, et elles ont le droit de le porter. Enfin, en tout cas, personne ne leur dit rien.
Effectivement. Alors, Bernard, et puis après...
Je voulais juste faire une remarque sur un petit bout de votre propos sur la liberté... ça se cultive par l'éducation, et puis ensuite vous avez eu un petit mot pour dire bon, on met beaucoup de choses sur l'école aujourd'hui, puis vous êtes passé à l'Afrique et à la façon dont la communauté tout entière, et sur la question de l'école quand même, je pense qu'il est, il est justifié aujourd'hui de lui mettre beaucoup de responsabilités. Les enfants y passent énormément de temps. Et il y a quand même un échec collectif à penser l'école comme responsable de transmission d'informations, d'éducation et de socialisation. Et à l'heure actuelle, quand on regarde l'école, l'état dans lequel elle est, c'est quand même... Vous avez aussi parlé de l'origine jésuite et du carcan disciplinaire que l'école avait pu vous inspirer. Mais en tout cas, moi, ce qui me frappe, en ce moment, je suis en lien... J'anime un réseau santé adolescent, et notamment on travaille sur la question du décrochage scolaire. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu beaucoup d'initiatives culturelles, notamment un courant socio-psychologique autour de Gérard Mandel, pour essayer de créer des espaces collectifs, des enfants autour de la vie scolaire, et que ce qui leur sort à travers l'apprentissage d'une parole collective puisse être transmis au monde éducatif et qu'il puisse y avoir un dialogue. Voilà. Cette expérience-là, elle est racontée dans des livres, dans des films, c'est une association. Et comment ce type d'initiative qui existe depuis des années, bon, puis si on va vers le courant freiné depuis un siècle, etc., comment ce type d'initiative n'est pas arrivé à créer un espace collectif où justement l'apprentissage de la socialisation et de la liberté se fasse au niveau de l'école. Donc j'aurais juste tendance à dire ne mettons pas l'école de côté. C'est vrai qu'il y a un excès de dire qu'elle est responsable de tout, mais il y a quand même un échec, à mon sens, important.
Tu voulais
répondre? Je réponds là, et puis après... Moi, l'échec me paraît être associé au souci d'une uniformisation systématique de l'ensemble des enseignements et des manières de prendre en charge la socialisation des enfants. Le collège unique, ça a été une avancée démocratique absolument remarquable, et en même temps, et à un moment donné, on s'aperçoit que le modèle, lorsqu'il devient trop uniformisant, détruit la possibilité même de prendre en charge la diversité des personnalités, la diversité des itinéraires, la possibilité de permettre à chaque personnalité de pouvoir aussi s'éclore et s'exprimer dans ce type de contexte. Et comme vous le disiez, il y a eu des expériences pédagogiques absolument passionnantes, mais qui sont toujours restées comme des sortes d'exercices dont les vertus sont effectivement considérées comme positives, mais dès lors qu'elles remettraient en question cette idée d'unité, d'uniformisation de la société et des projets pédagogiques, ne serait plus recevable. Pour moi, la grande difficulté, c'est comment conjoindre le souci de l'unité avec la prise en compte des diversités. Je suis personnellement un chercheur sur toutes les formes de pluralisme, de multisensus aussi, quand même, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, ce que je voudrais, si vous voulez, c'est simplement Alors peut-être c'est parce que moi-même, en tant qu'universitaire, je fais partie de l'école publique et donc j'aurais peut-être tendance à défendre un petit peu par ricochet quelque chose. Mais je crois que derrière les responsabilités évidentes de nombre d'enseignants, d'un système, etc., c'est véritablement un projet de société qui est en cause et que ça, on n'accepte peut-être pas suffisamment de le remettre en question. Et c'est dramatique parce que c'est toute l'idée de la modernité qui est questionnée derrière, avec cette importance du modèle que moi j'appelle si uniformisant qu'ils en deviennent unitaristes. Et c'est à ce moment-là la place du un seul dans la société, du monologisme, de la monolatrie dont parle Paul Venn dans ses travaux, qui sont véritablement les enjeux du vivre ensemble pour maintenant. On sait qu'on ne peut plus se satisfaire de modèles qui soient uniformisants. Mais en même temps, la société a besoin de cadres et va les chercher dans des modèles qui sont des modèles si uniformisants que finalement, là, il y a une contradiction. Jusqu'où irons-nous ? Je ne sais pas.
J'apporterai un autre type de réponse dans mon intervention.
Votre question, madame, sur l'envahissement d'un débat sur la laïcité par des discours sur la religion renvoie à quelque chose que je comptais dire et qui s'est échappé. Je voulais abréger mon intervention et au titre, enfin au thème que vous traitez ici, à savoir... la question politique de la laïcité, enfin la laïcité, nous informe-t-elle sur notre engagement politique de cette manière ? Et moi, je ne le crois pas du tout. C'est pour ça que je ne vois pas d'incohérence entre le fait de parler de la religion dans un débat sur la laïcité. C'est parce qu'il me semble que c'est la seule question qui se pose aujourd'hui, et notamment parce que il s'agit de religions minoritaires. Là, il me semble que le moment où la laïcité a été un combat politique est révolu. Il appartient à l'histoire, il est un moment important de notre histoire, dont Étienne a parlé de façon extrêmement éclairante, je trouve. C'était tout à fait passionnant. Mais c'est un débat historique, me semble-t-il, aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est ce que illustrait votre remarque, votre apport à cette discussion avec l'exemple de votre hôpital. Une des difficultés que nous avons qui se manifeste dans les discours publics avec l'islam, c'est le caractère qu'on considère comme ostentatoire d'une pratique, donc la religion, que l'on a rabattu sur le privé, sans d'ailleurs que la loi de 1905 y oblige. C'est d'autres choses qu'il s'agit. Les processions, l'exhibition de soutane ou de tenue religieuse pour les bonnes sœurs ne sont pas du tout interdites par la loi de 1905. C'est-à-dire l'espace public comme espace d'expression du religieux, parmi d'autres expressions, n'est pas du tout mis en cause par... la loi sur la laïcité. C'est plutôt une convention, un usage social qui est en cause là. Et convention, usage dont, personnellement, enfin, à l'intérieur desquels je me sens parfaitement à l'aise, mais qu'il faut quand même resituer comme ça. À quelques exceptions près, l'essentiel des pratiques a revêtu une forme relativement discrète, pour ne pas dire exclusivement privée. Ça n'est pas le cas dans la religion musulmane, qui extériorise beaucoup plus que la religion catholique, et la religion juive d'ailleurs se situant dans un intermédiaire, la kippa ou le turban étant... j'ai l'impression, enfin sur le plan disons phénoménal quoi, à mi-chemin. Et moi je vous rejoins tout à fait dans la position que vous exprimiez dans la formulation de votre commentaire, à savoir qu'il y a un moyen terme à trouver entre une exagération du caractère ostentatoire des signes, qu'il s'agit de l'extrême, à savoir le visage dissimulé, ou quelque chose d'exagéré, et puis le bannissement total, qui me semble vraiment excessif, avec inévitablement, enfin pas inévitablement peut-être, mais quand même de façon assez récurrente, la remarque que faisait votre directeur ou votre directrice, savoir les croix, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose parce qu'elles sont dans une histoire longue, et puis qui c'est pas sur la tête, c'est moins visible, enfin il y a quelque chose de même de physiquement distinct en effet. Alors ça renvoie aussi à cette question des accommodements raisonnables, on n'aime pas trop ça, c'est la version canadienne de la chose, on a l'impression que c'est le communautarisme à l'anglo-saxonne qui surgit. Peut-être qu'il faut éviter des mots qui fâchent, qu'il faut faire avec tact aussi, mener avec tact pour tout le monde, pas seulement pour les minorités qui s'estiment opprimées, mais aussi pour les majorités qui estiment les accueillir avec des droits sur elles. Tout ça doit être... c'est pour ça que le choix des mots et de la tonalité des générales du discours est important, mais c'est tout de même finalement... Un moyen terme que le raisonnement peut permettre de trouver. Je trouve que d'ailleurs le qualificatif d'ostentatoire que la loi a choisi de retenir est important et que finalement on a empiriquement tous une idée à peu près, une idée assez partagée de ce qui est ostentatoire et de ce qui ne l'est pas, que ce soit pour une croix, sa taille et la place qu'elle occupe sur le torse d'une personne. Pour une femme, en l'occurrence, l'importance de la coiffure qu'elle va prendre, qu'elle soit simplement, je sais pas, lors d'une tradition sociale, ou qu'elle soit plutôt reliée à une religion, un bandana n'est pas un voile, qui n'est pas un foulard, etc. Et tout ça peut faire l'objet de débats, mais qui renvoient effectivement à l'extériorisation des pratiques religieuses, qui là, de fait, est non pas une nouveauté, mais une façon de renouer sur un mode différent avec une pratique qui avait été peu à peu mise à l'écart. Et c'est ce choc-là, me semble-t-il, qui occupe une place importante dans les débats sur islam, religion, laïcité, etc.
Moi, oui, Olivier.
Non, mais d'accord, l'accommodement raisonnable, d'accord, quand on est quelquefois en face d'une radicalité, et croyez que je veux bien accepter la radicalité, quelquefois elle est bénéfique. Oui, mais c'est pas ce que tu vas faire, je pense.
Non, parce que c'est précisément le thème de mon intervention.
Voilà, c'était une remarque. Mais il y a aussi la question du règlement aussi. Et là, il y a une accommodation au règlement, mais c'est très très difficile. Je me rappelle, il y a quelques années, dans l'hôpital où j'étais, où je suis, il y a eu un débat à la maternité entre des femmes juives très religieuses qui voulaient un lait en poudre à elles, parce qu'il était hyper cachère, etc. Et cet hôpital est un hôpital ouvert où il y avait, on voulait bien admettre, etc. Mais il y a quand même un lait de base pour des raisons économiques, etc. Et puis il y avait la promotion de l'allaitement. Donc ça a fait tout un débat un peu difficile à l'époque. Crispant pour certains, pour moi en particulier, et qui s'est résolu parce que finalement l'hôpital a voulu privilégier la relation de mère-enfant et donc a accepté cette entorse. Mais enfin, que ce soit à l'école, à l'hôpital ou ailleurs, c'est vrai qu'il y a le fameux règlement et qui vient empoisonner beaucoup de choses. Mais qui est quand même là pour quelque chose, le règlement, pour vivre.